terrain, les performances de ces organes artificiels seront bien supérieures à nos compétences naturelles.
Dans l'avenir, il y a un nombre de possibilités immenses. Et un des points cruciaux, c'est qu'une fois qu'on a réparé, c'est relativement facile de changer pour augmenter. Quelles sont les augmentations possibles? Il va y en avoir énormément. La capacité de changer certaines des articulations dans le talon de manière à courir plus vite, c'est déjà quelque chose qu'on voit au niveau des compétitions entre athlètes et para-athlètes. Alors, il se trouve qu'il y a pas mal de prothèses qui maintenant permettent d'aller beaucoup plus vite qu'un pied normal. Donc ça devient des compétitions très différentes. Dans le cas, par exemple, d'un œil, qu'on peut relier après ça au fond de la rétine, au système nerveux, et puis faire en sorte que la personne voit de nouveau, rien ne nous empêche, chez quelqu'un dont les deux yeux fonctionnent parfaitement, d'adapter cet œil et puis de donner à cet œil la vision de nuit. C'est très facile, au niveau technologique, c'est très facile.
Nous travaillons sur un œil artificiel destiné aux aveugles. Mais c'est assez simple de lui donner des capacités et des performances supérieures à celles d'un œil humain, si on le fabrique avec des matériaux spécifiques. Par exemple, si on choisit une matière sensible à l'infrarouge, on peut parfaitement fabriquer un œil super-humain qui permet de voir dans le noir, toute lumière éteinte. C'est tout à fait possible. Ou alors, on pourrait augmenter la densité de pixels, la résolution de l'œil artificiel. Et on se retrouverait avec une vision bien plus détaillée que notre vision humaine. Ou on lui donnerait une capacité à voir bien plus loin, par exemple. Du coup, avec cet œil augmenté, on aurait une toute autre vision du monde. Notre œil humain ne voit que certains rayonnements du spectre lumineux. Mais imaginez qu'on puisse voir un spectre bien plus large, ce serait complètement différent. Les animaux voient toutes sortes de rayonnements. Les serpents voient l'infrarouge, par exemple. Imaginez, si on combinait les capacités d'un serpent, d'une grenouille et d'un aigle dans un seul œil artificiel, je pense qu'on aurait un tout autre regard sur le monde. C'est clair que ça changerait notre façon de vivre.
Aujourd'hui, on sait déjà que si on fait de la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire qu'on met des électrodes au cœur du cerveau et on va stimuler une région qui est impliquée dans la mémoire, on sait qu'on va augmenter ses capacités. Alors aujourd'hui, c'est pratiqué pour essayer d'améliorer la mémoire des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais comment on va empêcher demain des étudiants de Harvard d'aller en Chine ou dans d'autres pays exotiques pour se faire mettre des électrodes pour améliorer leur capacité de mémoire et ainsi d'avoir des meilleurs résultats à l'université?
Est-ce que ça arrivera un jour et puis on peut payer ça à notre fils de 10 ans, voilà, je t'offre une nouvelle mémoire, est-ce que ça se fera un jour? Ça me paraît encore un peu science-fiction, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être. Au même titre que la chirurgie esthétique qui, probablement, il y a des centaines d'années, paraît, c'est complètement impossible, quoi.
Nous rêvons tous d'avoir plus de capacités que ce qu'on a, non? Tenez, moi, je joue beaucoup au football. Eh bien, par exemple, j'aimerais bien installer un œil artificiel derrière ma tête, pour voir aussi dans mon dos. Comme ça, je verrai qui est derrière moi, qui me court après, où sont placés mes adversaires et mon équipe. Ça m'aiderait à prendre les bonnes décisions sur le terrain. À savoir à qui passer le ballon, par exemple. Ça pourrait être un bon dispositif de sport augmenté, qui donnerait des nouvelles compétences. Bon, je suis pas sûr que les instances de la Coupe du Monde de foot, la FIFA, autoriseraient ce genre de dispositif. Mais pour rigoler, ce serait sympa.
Dans notre scénario du pire, Jenna n'a pas eu le choix. Pour renouer avec sa carrière de footballeuse, elle a dû renoncer à ses jambes naturelles pour les remplacer par des membres bioniques. La moitié de son corps appartient à son club. Mais la perspective de voir les hommes transformés petit à petit en robots ne plaît pas à tout le monde. Et il n'est pas rare que Jenna soit prise à partie par des inconnus. Ce militant revendique de rester 100% naturel. Humain contre cyborg. Et si c'était le nouveau clivage que nous réserve cet avenir plus sombre? Jenna n'est pas du genre à se laisser impressionner par le premier venu. Elle va même lui donner une leçon. Mais voilà que ses jambes refusent de lui répondre. L'inconnu vient de prendre le contrôle de toutes les prothèses aux alentours. Une façon de prouver que plus l'homme est connecté, plus il est manipulable.
Par exemple, on arrive à mettre des pluies d'électrodes dans le cerveau, sans fil. Il y a des gens à Berkeley qui ont réalisé ça déjà sur des rongeurs. On peut enregistrer l'ensemble du cerveau sans fil. Ça veut dire qu'on va vraiment enregistrer toute l'activité cérébrale. De là, on peut commencer à imaginer qu'on va créer des algorithmes avec l'intelligence artificielle qui vont décoder les pensées. Alors, on ne va pas complètement décoder ce que les gens ont, leurs émotions, etc. Il ne faut pas non plus fantasmer. Mais on peut imaginer un petit avatar qui se promène dans le métaverse alors que quelqu'un est en train de taper sur un ordinateur ou fait autre chose, etc. Et la navigation dans le métaverse ne se fera pas avec un joystick, etc., mais avec la pensée. Elon Musk, en voulant mettre des mini-ordinateurs dans le cerveau pour connecter les gens avec leur téléphone, leur ordinateur, etc., c'est de la neurochirurgie cosmétique. C'est créer des cyborgs. Est-ce que vraiment on va avoir une approche aussi invasive, aller mettre tant d'électrodes, d'électronique dans notre système nerveux central, tout ça pour nous connecter à un monde artificiel? Moi, ça me paraît surréaliste. Mais ce qui était surréaliste pour des gens il y a 100 ans, d'avoir des communications vidéo, à distance, etc., aujourd'hui, il y a une telle banalité. Alors,
c'est une question d'éthique fondamentale de savoir qui va avoir le contrôle des électrodes qu'on peut placer dans notre cerveau et dans quelle mesure on permet ça, comment c'est régulé, comment ça se agence avec les valeurs de notre société.
Alors, c'est certain qu'à partir du moment où il y a des technologies, des systèmes, soit médicaux, soit même communication électronique, qui sont implantés dans un corps humain, il y a beaucoup de questions même de cybersécurité qui sont en place. C'est-à-dire que quelqu'un peut hacker vos enregistrements ou aller stimuler une région du cerveau où il y a une électrode pour changer un comportement. Il faut bien savoir aujourd'hui que c'est très très facile de générer un comportement sur une souris. Par exemple, en allant stimuler une région où elle devient d'un seul coup très agressive, où elle s'endort, où elle devient complètement addicte à de la nourriture. Donc on peut vraiment aller manipuler des comportements.
On peut arriver à donner à un être humain des idées, des volontés, en stimulant les bonnes parties du cerveau. Mais c'est nous qui stimulons une partie du cerveau, c'est plus lui qui a cette agentivité. Et on commence à comprendre comment différentes parties du cerveau, quand elles sont stimulées, donnent cette impression d'autonomie. Mais maintenant, si c'est moi qui stimule votre partie du cerveau, vous aurez l'impression d'être autonome, mais c'est moi qui dirige.
En 80, certains estiment que l'espérance de vie aura progressé jusqu'à 150 ans. Le rajeunissement physique ne sera plus un fantasme. Mais le risque dans le futur, c'est que ce privilège ne soit réservé qu'aux plus riches. Comme l'oncle et la tante de Jenna, à qui notre footballeuse augmentée est venue demander une faveur. Lui frôle les 90 ans. Mais la thérapie cellulaire lui permet de jouer les quarantenaires. Quant à sa tante de 70 ans, la voilà avec un ventre de femme enceinte. Son secret? Cellules reprogrammées et utérus artificiel. Le Le bébé qu'elle attend a été génétiquement modifié, comme son grand frère. Chacune de leurs qualités a été choisie sur un grand catalogue génétique mis à disposition par la clinique. La jeune footballeuse professionnelle est ici pour une requête. Après ses jambes, elle rêve de s'équiper de bras bioniques pour améliorer ses performances. Mais tout cela coûte très cher, et Jenna ne veut pas dépendre davantage de son club. Sa tante est-elle d'accord pour financer son projet? Bien sûr! Si ce n'est qu'une question d'argent. En un battement de cils, elle vient de lui faire un virement.
Le risque de toujours vouloir s'augmenter est certainement un gros débat qui fait peur, mais en même temps, on est très régulé. Il y a énormément, de plus en plus de comités d'éthique qui empêchent, qui freinent. Comme il y a 20 ans, on pouvait plus avancer que de nos jours, parce que de plus en plus de comités permettent de réguler tout ça. Et il y a quand même une espèce de conscience humaine qui fait qu'on avance lentement et précautionneusement.
On a vraiment besoin de se positionner sur... Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que les réparations, augmentations physiques sont OK, mais celles qui sont mentales et de l'ordre du domaine intérieur ne le sont pas? Est-ce qu'il y a toutes sortes de questions et un vaste champ de réflexion éthique à avoir sur quelles capacités on pense qu'on peut laisser être augmentées ad fin, ad nauseam, et quelles capacités on préfère rester dans le domaine naturel. Si j'avais à prédire, je pense qu'on va toutes les augmenter. C'est-à-dire qu'on a vraiment une motivation extrêmement forte en tant qu'être humain à pousser les limites du possible.
Au-delà de la santé et donc de la bonne qualité de vie, on ira vers l'augmentation de l'espérance de vie, une plus grande intelligence, une plus grande capacité de jouir de la vie, une plus grande... pour certains aussi une plus grande robustesse. Et là, ça pose une question aussi éthique, parce qu'on pourra être à la fois augmenté et diminué en même temps. On peut très bien avoir des ouvriers du futur, des exécutants du futur, qu'on va booster au niveau de l'endurance et de la force, mais qui en contrepartie n'auront pas forcément la liberté de jouir une vie agréable. Des gens qui pourront peut-être vivre plus vieux, mais travailler plus longtemps pour d'autres, ce genre de choses. L'augmentation n'est pas forcément au bénéfice de la personne qui est augmentée. On peut imaginer qu'il faille porter un implant, qu'il faille avoir recours à tel ou tel soin pour être toujours correspondant aux besoins de l'entreprise.
On peut rêver d'un futur où les progrès de la médecine n'auraient pas eu d'incidence sur notre liberté. Jenna, la grimpeuse, n'a pas repris le chemin des sommeils. Mais elle passe de plus en plus de temps avec Jake. Jake se verrait bien échanger ses prothèses contre ce modèle dernier cri. Mais dans ce futur-là, la médecine réprouve toute modification de confort. Pour Jenna, c'est le grand jour. Un ultime rendez-vous médical pour clore le rodage de son cœur bionique. Le centre médical est un espace entièrement informatisé, ouvert jour et nuit. En 2080, ces terminaux intelligents ont remplacé les médecins pour certains rendez-vous de routine. Il suffit à Jenna de se placer en face de la borne pour que sa lentille communique toutes les informations et reçoive le diagnostic. Dans ce scénario idéal, tout est gratuit. À condition, bien sûr, de partager ses données de santé avec l'opérateur. Tout est parfait. Jenna n'a plus aucune raison de s'en faire. Ça paraît tellement simple qu'elle a du mal à y croire. Comment une intelligence artificielle peut-elle se substituer à un médecin? Pour en avoir le cœur net, il suffit de l'éprouver. Jenna a beau forcer, son pouls demeure constant, comme celui d'un grand sportif.
Le scénario le plus probable, c'est qu'il y aura de moins en moins d'hôpitaux dans le futur. Tous les soins non critiques qui aujourd'hui ont encore lieu dans les hôpitaux se passeront ailleurs. À la maison, par exemple, ou dans des centres commerciaux. Il y aura sans doute des sortes de box sur place. Vous paierez une petite somme et vous aurez vos radios et vos IRM immédiatement.
Le temps que nous passerons chez le médecin diminuera dans le futur, c'est sûr. Car ce sont les technologies qui prendront le relais.
Cette médecine du futur que je décris, basée sur l'intelligence artificielle et les calculs, ne veut pas dire qu'on passera d'une médecine de consultation avec son médecin à une médecine déshumanisée, froide, dirigée par des ordinateurs, les data, où ce sont des robots qui vous soignent. Je ne crois pas du tout à cette vision. Ce que je pense, c'est que la technologie va au contraire aider la médecine à devenir plus humaine.
Dans le futur, le rôle des médecins va se transformer. Au lieu d'être celui qui vous répare quand vous êtes cassé, ce sera plutôt quelqu'un qui vous aide à rester en bonne santé. Une sorte de coach santé, si vous voulez.
Quand on voit aujourd'hui à quel point les systèmes de santé sont au maximum de leur capacité, avec des médecins en burn-out, le nombre de patients qui augmente et le manque d'accès aux soins, je pense que l'intelligence artificielle peut justement réduire cette pression. Ce qu'on fait ici chez Google, Alphabet et Verily avec l'intelligence artificielle et le cancer est un bon exemple, je crois. En général, pour un cancer, pour comprendre la maladie, vous prélevez un fragment de tissu de la tumeur, c'est ce que l'on appelle une biopsie. Jusqu'ici, il fallait envoyer ce prélèvement dans un laboratoire, puis attendre quelques semaines pour obtenir le profil génétique de la tumeur. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on a démontré qu'on pouvait obtenir les mêmes informations, juste en analysant une image de cette biopsie, sans attendre. L'intelligence artificielle peut aussi détecter les marqueurs génétiques d'un cancer du sein, juste en analysant une image, ce qu'aucun spécialiste ne pourrait jamais faire. Vous voyez, l'intelligence artificielle offre tellement de perspectives, à la fois pour soulager les médecins, mais aussi pour surpasser les capacités de l'être humain.
De la Cyberligue. Notre footballeuse augmentée profite de la mi-temps pour se faire contrôler. Elle a trop forcé sur ses jambes bioniques. Or, ces prothèses-là sont la propriété du club. Le technicien vérifie aussi qu'elle n'a pas débridé ses prothèses. En 2080, c'est la nouvelle forme de dopage. Dans cette version du futur où les hommes et les femmes doivent trouver un moyen de s'acheter une santé, Jenna ne s'appartient plus. Il lui arrive de repenser à sa vie d'avant, au choix qu'elle a fait, à la liberté qui était la sienne autrefois. Mais Jenna doit chasser cette idée. Elle a un match à gagner, des joueuses adverses à écraser, de toute la puissance de ses prothèses. En 2080, aura-t-on assisté à la naissance d'une civilisation cyborg et sous contrôle ? On peut aussi envisager un futur plus lumineux,
Celui où Jenna parvient à retrouver les sommets tout en conservant sa liberté. Dans notre scénario idéal, la médecine protège Jenna, veille sur elle. La technologie qui gouverne son nouveau cœur est sous son contrôle. Au début du 21e siècle, Jenna et Jake auraient passé leur vie dans un hôpital. Mais en 2080, la science leur offre une nouvelle chance.